France Culture, il est 16h. Tout de suite, Planète Terre, Sylvain Kahn.
J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Planète Terre, l'émission de géographie des enjeux globaux de France Culture. Comme chaque mercredi, nous sommes ensemble et en direct de 16h à 17h. Tendez l'oreille.
C'est simple, depuis l'annexion de la Crimée, fin mars, l'analyse de Vladimir Poutine n'a pas évolué. La Russie, dit-il, a simplement été réunifiée et à Kiev, c'est un coup d'État qui a renversé le président Yanukovych. Et effectivement, il n'a pas manqué de multiplier les reproches à ceux qu'il appelle les amis américains, mais qui interviennent partout aux frontières de la Russie. Les Occidentaux sont clairement accusés de cynisme. D'ailleurs, il affirme aussi que les États-Unis et leurs alliés auraient de toute façon trouvé quelque chose si la crise ukrainienne n'avait pas existé.
Ce n'est pas par hasard que j'évoque nos amis américains. Directement ou dans les coulisses, ils tentent toujours d'influencer nos relations avec nos voisins. Parfois, on ne sait même pas à qui s'adresser, au gouvernement du pays ou à leurs protecteurs et sponsors américains.
Il a aussi remercié les Russes pour leur soutien. Les sanctions sont un défi, selon lui, pour mieux mobiliser les capacités de la Russie. Vladimir Poutine a parlé pendant 20 minutes de relations internationales avant de parler pendant 40 minutes d'économie. Effectivement, les soucis ne manquent pas. L'inflation est à 10%, la récession industrielle, le recul des investissements, la fuite des capitaux et puis aussi, on le sait, l'effondrement du rouble.
Et depuis, on peut rajouter l'effondrement des cours du pétrole. Car 15 mois plus tard, la situation de la Russie, décrite par Marc Crépin fin 2014, a encore empiré. Comme l'expliquait l'émission Les Enjeux Internationaux ce matin sur cette antenne, l'économie russe se porte de plus en plus mal. Et pourtant, plusieurs observateurs considèrent que les sanctions et cette baisse des cours du pétrole ont accéléré la coopération de la Russie avec les pays d'Asie, dont la Chine. Ainsi, le positionnement eurasiatique du président Poutine ne serait pas qu'un slogan, mais serait peut-être une promesse. Il y a également une autre bifurcation dont on entend parler beaucoup plus souvent dans l'actualité. Rappelez-vous, invasion de la Géorgie en 2008, puis de l'Ukraine en 2014, annexion de la Crimée, ça vient d'être rappelé, intervention militaire en Syrie depuis l'été 2015. Depuis quelques années, la Russie a fait son retour militaire hors de ses propres frontières. L'URSS nous y avait habitués, dont l'ambition était de changer l'organisation idéologique, économique et sociale du monde, et cela pendant 70 ans. Cette Russie, nouvellement interventionniste, veut-elle à son tour changer le monde, ou ne s'agit-il que de consolider ses intérêts dans un espace régional restreint ? Les Russes, mais alors quels Russes ? Qui sont les Russes ? Les Russes ont-ils encore une vision du monde ? Et si oui, quelle est-elle et comment se réalise-t-elle ? Bref, comment la Russie change-t-elle le monde ? C'est le sujet de Planète Terre cette semaine. Élément de réponse avec Aude Merlin, maître de conférence à l'Université libre de Bruxelles, avec Françoise Dossé, directrice d'études à l'EHESS, qui publie ce mois-ci « Être opposant dans la Russie de Vladimir Poutine » aux éditions Le Bord de l'eau, et avec Olga Gilbelova, maître de conférence au département d'études slaves de l'Université Michel de Montaigne, Bordeaux 3. Bonjour à toutes trois.
Bonjour.
Alors Aude Merlin, vous êtes en duplex depuis le Centre international de presse de Radio France, donc je remercie beaucoup Pierre Benazet pour vous accueillir là-bas à Bruxelles. Olga Gilbelova, vous êtes en duplex depuis les studios de France Bleu Gironde, merci à Radio France Gironde là aussi. Et puis Françoise Dossé, vous ne m'avez pas laissé entièrement seul, vous êtes en studio avec moi à Paris. Alors peut-être pour rebondir un peu sur ce son d'actualité, cette archive de 2014, je voudrais vous proposer, peut-être qu'on commence par ce qui, moi, m'apparaît comme un paradoxe. Comment est-ce que la Russie finance cette expansion militaire, alors qu'on nous dit qu'économiquement, elle est, disons, dans une phase très, très difficile ? Faut-il comprendre que cette expansion, en tout cas cet interventionnisme ou cette modernisation de l'armée est en trompe-l'œil, ou au contraire, faut-il y voir la capacité de l'industrie, des ingénieurs et des entrepreneurs russes à peser sur l'économie mondiale, sur l'innovation et le progrès technique à l'échelle du monde? Françoise Dossé, vous qui êtes en face de moi à Paris, dites-nous.
Oui, je vais essayer de répondre à cette question. D'abord en soulignant que la Russie a connu depuis le début des années 2000 une période de développement économique important, grâce justement au prix du pétrole très élevé, et qu'avant de connaître cette crise actuelle, elle a quand même connu donc un développement très important qui lui a permis en partie de moderniser son armée, de réarmer, d'acheter du matériel, de produire du matériel militaire. Et d'une certaine façon, la présence militaire russe à l'étranger qu'on observe aujourd'hui, elle est dans le prolongement de l'ensemble de ces années 2000 et pas à penser simplement dans la crise d'aujourd'hui. Je pense qu'elle témoigne aussi des choix qui ont été faits à Moscou, effectivement, de beaucoup réinvestir le domaine de la sécurité et du militaire au dépend probablement d'autres pans de l'activité économique et de l'organisation sociale dans le pays. Donc c'est aussi des choix politiques qui ont été faits en faveur de l'armée et des structures de sécurité, très clairement.
Mais j'ai cru comprendre en préparant cette émission qu'il y avait un débat entre spécialistes, dont vous êtes les unes et les autres, sur, disons, la véritable ou non modernisation de l'armée russe. Tout le monde prend au pied de la lettre, effectivement, les efforts budgétaires tout à fait importants, vous venez de le rappeler, Françoise Dossé, mis en œuvre sous la direction de Vladimir Poutine pour moderniser l'armée russe. Il y a toujours 1 million d'hommes, nous dit-on. J'ai lu quelque part que l'augmentation du budget était la deuxième plus importante dans les 15 dernières années après celle du budget militaire chinois. Mais il y a un débat. Voilà, apparemment, il y en a qui disent que tout ça est un peu en trompe-l'œil. Je voulais savoir, de votre côté, Olga Gilbelova, est-ce que vous allez plutôt dans le sens de Françoise Dossé sur ce point? C'est pas en trompe-l'œil, il y a une vraie modernisation, ou bien oui, c'est quand même un peu en trompe-l'œil et l'intervention en Syrie masque en fait un retard structurel?
Oui, bonjour, je vous rejoins un petit peu en cours et comme vous avez bien résumé le commentaire de Françoise, donc je vais essayer de m'enchaîner sans me répéter. Il y a une volonté de modernisation qui a été très manifeste depuis les années 2000, et il y a un grand effort financier qui a été effectivement fait, et surtout au cœur de la politique étrangère russe, il y avait ce désir de reconquérir la puissance perdue. Et l'intervention russe en Syrie se présente aujourd'hui comme une occasion rêvée de montrer cette puissance, de se mettre sur le devant de la scène, et on voit toujours qu'en dépit d'un contexte économique très défavorable, l'essentiel de l'effort est attribué toujours à cette intervention. Après le débat sur la modernisation qui a eu parmi les élites russes à la fin des années 2000, a montré qu'elles-mêmes sont très conscientes d'efforts insuffisants qui ont été faits pour moderniser l'économie russe, pour la diversifier. Donc il y a eu une modernisation très partielle et largement insuffisante.
Alors s'agissant d'économie russe, évidemment, il y a une question qui me vient tout de suite à l'esprit. Est-ce que la Russie, c'est un État rentier, et qui est donc très, très, très soumis aux variations des prix des hydrocarbures, ou est-ce que c'est encore, comme on l'a dit pendant tant de décennies, une grande puissance industrielle? Il me semble que bon, la question de l'armement permet aussi de poser cette question-là. Et si oui, à ce moment-là, comment est-ce que ça joue sur la manière dont la Russie se positionne dans l'espace mondial? Françoise Dossé?
Oui, je crois que non. La Russie est une économie de la rente depuis, et on le voit très clairement depuis le début des années 2000, et c'est à la fois ce qui a fait le grand bonheur du pays, en lui apportant des ressources absolument considérables grâce au cours du pétrole très élevé durant toutes les années 2000, et c'est ce qui a permis de financer en fait le retour de la Russie à la fois au niveau national sur la scène internationale. Si on se souvient des difficultés que connaissait la Russie dans les années 90, on voit que dans les années 2000, elle a bénéficié d'une croissance forte et de ressources très importantes. Donc ça fait le bonheur du pays, mais ça fait aussi son malheur, puisque évidemment c'est un facteur qui a limité les possibilités de réindustrialisation du pays, puisque l'essentiel des ressources ont été investies dans le domaine des matières premières, du gaz, du pétrole. et que actuellement, à l'heure où les prix du pétrole baissent, on voit bien ce qui reste, je dirais, une fois que, une fois que la marée s'est retirée, on voit bien dans quelle situation se retrouve quand même l'économie russe actuellement.
Donc on ne dirait pas que c'est une grande puissance industrielle.
Ce n'est plus une grande puissance industrielle, à mon sens.
Et Aude Merlin, vous qui êtes donc en duplex de Bruxelles, est-ce que ça se... Comment dire, enfin, d'abord, est-ce que vous êtes d'accord à ce qui vient d'être dit par vos deux collègues et comment est-ce que ça touche, on va dire, la structure sociale de la société russe et en particulier la manière dont là aussi elle est présente à l'étranger à travers ce qui nous apparaît encore une fois plus dans les pages d'actualité, parfois dans les pages People, à travers la présence de ces grandes fortunes russes à l'étranger.
Alors oui, la Russie est un État rentier, c'est-à-dire quand vous avez un budget qui a plus de 70% est pourvu par le secteur des hydrocarbures et tout ce qui est lié en produits dérivés, en exportation, etc., etc., je pense qu'on peut effectivement parler d'État rentier. Je souscris complètement à ce qui a été dit sur la désindustrialisation. En fait, l'industrie productive en Russie n'a jamais réellement repris, à part quelques secteurs. On est vraiment après la crise qui a été majeure en 1990-91, qui était comparable à la crise de 29 aux États-Unis. Enfin, il faut vraiment se souvenir de cet abysse économique qu'a subi l'économie russe à la fin donc, des années 80, au début des années 90. L'industrie n'a jamais réellement repris. Il y a des problèmes structurels, un manque criant d'investissement, l'argent, donc non seulement l'argent extérieur qui ne vient pas, mais l'argent russe qui s'en va, donc ça se compte vraiment en millions de dollars, enfin, etc. Et précisément, vous mettez le doigt sur les circuits, c'est-à-dire qu'on a une délocalisation de ces capitaux russes qui trouvent mieux, finalement, pour s'épanouir à Londres ou offshore ou dans des villas dans le sud de la France, à Courchevel et autres. Donc c'est sûr que l'économie russe, à mon sens, est hémiplégique. On a un pays très riche, avec un budget qui a profité énormément de la rente, qui bien sûr en ce moment est tout à fait fragilisé puisqu'avec un baril à 30 dollars, c'est plus du tout la même chose que quand il était à 100 dollars. Et donc avec des fonds de réserve qui avaient été accumulés, fonds pour les générations futures, fonds de réserve qui laissaient percevoir des lendemains assez sécurisants pendant des années, sauf que maintenant ils fondent comme neige au soleil et dans le même temps, donc l'argent ne rentre pas pour réinvestir. Donc cette économie est très fragile, très dépendante de la conjoncture et effectivement socialement on voit bien aussi que il y a eu un effet, c'est exactement ce qu'a dit Françoise Dosset, il y a eu un effet dans les années 2000 où cette rente a eu directement une déclinaison, une traduction sur la structure sociale russe au sens où la classe moyenne, émergente, urbaine, a véritablement profité de ces années fastes parce qu'il y a eu une redistribution jusqu'à un certain point et en tout cas dans ce secteur d'une classe moyenne urbaine. Mais maintenant, précisément, elle est touchée en boomerang, hein, d'une certaine façon, par les effets de la crise actuelle. Et c'est sûr que du coup, on voit une fuite. Il y a une fuite des capitaux, mais il y a aussi une fuite des gens qui est de plus en plus mesurée au sens où c'est un pays qui n'arrive plus à présenter à sa propre population des perspectives et un avenir suffisamment, disons, attractif pour avoir envie d'y rester. On voit maintenant que les estimations sont entre 80 et 100 000 personnes qui quittent la Russie par an.
Alors, et qui vont où, Aude Merlin ? Qui vont à
alors, partout.
D'accord, il n'y a pas de...
En Australie, aux États-Unis, en Chine, c'est-à-dire pas forcément dans le monde démocratique, en partie dans le monde démocratique, mais aussi dans un monde non démocratique, mais qui offre plus de dynamisme économique ou de perspective. Et du coup, c'est sûr que la Russie, dans ce contexte-là, et puisqu'on parle aussi de projection ou d'imagination de ce que pourrait être la Russie dans quelques années, bah, on sait que la démographie et la dépopulation est précisément aussi le produit de cette absence de perspective et de réinvestissement dans une économie et de rééquilibrage de cette économie.
Donc, si je comprends bien ce que vous dites toutes les trois, Aude Merlin, Françoise Dosset, Olga Gilbelova, si on se place strictement sur le plan, disons, économique, le premier élément de réponse à la question posée par cette émission, la Russie change-t-elle le monde et si oui, comment, c'est clairement non. Pas d'influence de la Russie sur le monde aujourd'hui du point de vue économique. On peut conclure comme ça ce premier temps ?
Oui, d'une certaine façon, oui. Et on le voit bien dans la situation de la Russie par rapport aux producteurs de l'OPEP, où on voit bien que la Russie est complètement à la traîne et incapable d'influencer les négociations sur la production de pétrole. Le ministre des Affaires étrangères, Lavrov...
La Russie est dans l'OPEP ou n'est
pas ? Non, n'est pas dans l'OPEP, mais justement est incapable de... Enfin, comment dire, n'est pas en mesure d'influencer les choix de l'OPEP. Et donc, ce que je disais, c'est que...
Alors qu'elle l'était avant, si j'ose dire, du temps de l'URSS.
Elle pouvait l'être.
En tant que besoin.
Voilà. Et donc là, cette semaine, Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, était à Abu Dhabi, visiblement aussi pour essayer de discuter de ce problème des cours du pétrole au niveau international.
Alors à partir de là, question peut-être beaucoup plus générale et peut-être un peu naïve, est-ce que vous diriez que par d'autres biais, la Russie se donne les moyens d'influencer l'ordre international ? Et si oui, dans quel secteur ? Et où ? Je ne sais pas laquelle de vous trois veut répondre en premier à cette question. Françoise Dossé.
Oui, je veux bien répondre éventuellement. Je pense que la Russie a l'ambition, effectivement, de proposer un modèle alternatif dans le monde d'aujourd'hui. Un modèle politique même alternatif, qui est un modèle beaucoup plus conservateur, qui s'adresse... conservateur qui s'adresse, je dirais, aux eurosceptiques, notamment aux américano-sceptiques, avec l'ambition aussi d'être un peu le chef de file d'un autre pôle de développement au niveau international dans un monde que la Russie conçoit comme multipolaire. Donc l'idée de lutter contre la domination américaine et libérale et la démocratie libérale, la domination de la démocratie libérale dans le monde contemporain. Donc ça, je pense qu'au niveau politique, il y a une vraie vision du rôle de la Russie dans le monde actuel, en opposition au projet politique développé en Europe occidentale et aux États-Unis. Et on voit que ce discours peut avoir des effets et fonctionne assez bien auprès d'un certain nombre soit de gouvernements à tendance conservatrice, comme le gouvernement de Viktor Orban, par exemple, en Hongrie. Les liens entre Vladimir Poutine et Orban sont assez clairs. On voit aussi cette influence qui s'exerce au sein même de l'Europe, influence ou lien, plus exactement, de la Russie avec un certain nombre de partis en Europe, et notamment, je pense ici au parti d'extrême droite, au Front National en France, qui entretient donc des liens assez privilégiés avec Moscou. Mais on voit aussi cette influence chez un certain nombre de partis d'extrême gauche, et là aussi en France. Puisque si on prend l'exemple du parti de gauche, il a notamment soutenu la politique de la Russie en Ukraine. Donc on voit bien qu'il y a quand même une influence politique de la Russie qui est à la fois revendiquée et qui s'exerce de fait à l'heure actuelle.
Est-ce que ça veut dire, Olga Gilbelova, que le positionnement idéologico-politique en matière de relations internationales et d'influence de la Russie sur la scène internationale serait anti-occidentale ? Est-ce que c'est beaucoup trop schématique de dire les choses comme ça ?
Oui, l'anti-occidentalisme de la politique russe a été toujours très fort, mais il a été souvent justement nuancé par ce positionnement multipolaire que évoquait Françoise. Donc souvent, les dirigeants russes revendiquent cette idée d'un monde composé de plusieurs pôles de puissance, et la Russie pourrait être un de ces pôles de puissance. Mais aussi, ils proposent une vision de monde assez conflictuelle. C'est toujours l'ordre international, basé sur le rapport de force, sur la défense des intérêts nationaux, et sur la création des zones d'influence entre les différents pôles. Donc effectivement, c'est une idée qui peut être intéressante. Et d'ailleurs, la Russie a essayé de devenir le leader parmi les pays émergents, donc tout en créant, s'emparant de ce concept des pays émergents pour s'imposer un petit peu face aux puissances occidentales bien installées, dont la domination peut être aujourd'hui discutée dans l'ordre mondial. Et la Russie essaye justement de promouvoir plutôt d'autres pays qui cherchent et auxquels elle peut proposer son savoir-faire diplomatique, en quelque sorte, d'alliance et de promotion de leurs intérêts dans les différentes institutions internationales dont elle fait partie.
Oui, savoir-faire diplomatique qui est à la fois très grand et qui s'appuie sur une très longue tradition, à la fois de la diplomatie tsariste puis soviétique, on peut dire ça. Écoutons un instant, puisque vous avez évoqué l'une et l'autre, disons, cette idéologie qu'on pourrait qualifier, pour aller vite encore une fois, d'anti-occidentale et qui est un peu comme le sous-basement de cette politique étrangère. Écoutons Celui qui est considéré donc un peu comme le porte-parole du contre-modèle, John Kerry, donc secrétaire d'État américain, donc ministre des Affaires étrangères du gouvernement Obama de l'administration américaine. C'était le 25 avril 2014 sur France Inter dans le journal de 7h du matin.
Après les mouvements de troupes russes menaçant sur la frontière ukrainienne, laissez-moi être clair. Si la Russie continue dans cette direction, cela ne sera pas simplement une grave erreur, ce sera une erreur qui va lui coûter cher. Le monde restera uni pour l'Ukraine. Je le répète, la fenêtre pour changer de stratégie se referme. Le président Poutine et la Russie sont confrontés à un choix. Si la Russie choisit le chemin de la désescalade, la communauté internationale accueillera cette nouvelle avec satisfaction. Si ce n'est pas le cas, le monde va s'assurer que le coût pour la Russie augmente encore. Et comme le président Obama l'a réaffirmé aujourd'hui, nous sommes prêts à agir.
France Culture, Planète Terre.
Sylvain Kahn.
Et on se demande aujourd'hui comment la Russie change-t-elle le monde. Alors ça c'était en 2014, il y a un an et demi quasiment maintenant. À l'époque, beaucoup de commentateurs s'étaient demandé si on n'assistait pas à un retour de la guerre froide. Quand on voit le rapprochement actuel entre les États-Unis d'Amérique et la Russie à l'occasion tant des négociations sur l'Iran que de la lutte contre Daesh en Syrie, on voit bien que cette analogie ne fonctionnait pas vraiment. Comment est-ce que vous diriez les unes et les autres que ce positionnement anti-occidental est porté et mis en œuvre au sein de la société russe? Parce que, évidemment, ce qui change énormément par rapport à la période précédente, c'est que la Russie poutinienne et la société de la Russie poutinienne sont clairement rentrés dans l'économie de marché, sont clairement dans l'enrichissement et dans les très grandes inégalités, sont clairement dans le capitalisme. Alors du coup, cet anti-occidentalisme, entre guillemets, il repose sur quoi, il fonctionne comment, il est mis en œuvre par quel acteur, Aude Merlin, par quel acteur au pluriel?
Alors, il y a un terreau, c'est-à-dire que la société russe, bon, elle a été vraiment bouleversée, prise de plein fouet par la crise économique des années 90 et par tout le chaos qui a été associé à cette crise économique, tout ça sur fond d'un discours qui se disait démocrate, ce qui a engendré immédiatement un discrédit de l'idée de démocratie. Donc c'est très fâcheux et c'est probablement prégnant et ça semble assez durable. Et donc ce terreau rend tout à fait propice un discours anti-occidental et un discours donc qui va, à destination de la société russe, chercher à écrire une narration d'une société russe consolidée contre un ennemi. Et on voit quand même dans l'histoire russe, et on l'a vu aussi dans l'histoire soviétique, que les ennemis, fussent-ils de l'extérieur, fussent-ils de l'intérieur, sont souvent de très commodes alliés objectifs, si je puis dire, du pouvoir pour consolider sa société autour de lui. Alors après, il y a évidemment des porte-paroles, il y a des entrepreneurs du discours. Bon, on peut parler évidemment de toute la mouvance eurasienne, eurasiatique, l'eurasisme porté par Alexandre Douguin. On peut parler évidemment de figures proches du Kremlin ou qui sont donc des conseillers, ce qu'on appelle les technologues politiques du Kremlin. On peut parler de l'Église orthodoxe russe qui a elle-même énoncé toute une matrice sur des droits de l'homme spécifiquement orthodoxes. Et il y a évidemment ensuite tous les relais, qu'ils soient médiatiques, dans les différentes couches de la société, etc. Donc finalement, vous avez à la fois une histoire, l'histoire longue et profonde, vous avez ensuite des chocs et des secousses, et en particulier la secousse abyssale des années 90, avec cette espèce de réparation symbolique dans les années 2000, à la faveur aussi donc d'une réparation économique et d'un mieux-être. Et vous avez ensuite cette histoire de voie russe vers l'avenir. Enfin, je pense souvent à Alexei Levinson, qui dit que la société russe, au fond, dit « Bon, on ne veut pas ressembler à l'Occident, on ne veut pas être comme l'Occident, parce que ça n'a pas marché. Les années 90, ça a été la catastrophe. On ne veut pas non plus retourner vers la période soviétique et le mode de vie soviétique. » C'est ce que vous avez dit, les Russes sont mondialisés, ils consomment, etc. Et donc, il faut qu'on trouve une autre voie. Et cette voie-là, c'est une voie russe, et donc ça convoque évidemment tout cet arsenal aujourd'hui qui se développe sur la question de la conservation, des valeurs conservatrices, qui se construisent sur toute une série de réflexes qui sont très profonds dans la société russe, etc. Bon, qui peuvent aller de l'homophobie à l'anti-occidentalisme, l'anti-libéralisme, etc., etc. Et donc, on a à la fois une société qui est réceptive et des entrepreneurs du discours qui sont particulièrement actifs et qui avancent, je dirais, vraiment sur un terrain qui est extrêmement facile à travailler. Et l'annexion de la Crimée, elle a marché à plein sur ce terreau-là. Et je dirais qu'elle a marché d'autant plus, finalement, que la compensation symbolique, en termes de sentiment d'appartenance, en termes de nationalisme, en termes de sentiment de réparation, finalement, n'a rien à voir avec l'économie. C'est-à-dire, là aussi, hein, on le voit, les sociologues russes travaillent beaucoup sur cette histoire de savoir si la compensation symbolique, à un moment donné, va être bousculée par la crise économique. Et encore, le même Levinson parle de la télévision et du frigo et montre que, pour l'instant, la boîte qui est gagnante, c'est la télévision. C'est le discours, c'est la propagande, c'est cette façon de flatter, au fond, un retour d'orgueil ou de sentiment d'avoir retrouvé une forme de dignité par la réaffirmation de la Russie sur la scène internationale.
Est-ce que ça veut dire que la société russe, surtout si on la compare aux sociétés des différents pays qui composent l'Union européenne ou européens, est une société qui se caractérise par son nationalisme. On peut dire ça, Françoise Dosset ?
Alors, je serais peut-être moins radicale en la matière, c'est-à-dire que, dans le prolongement de ce que vient de dire Aude Merlin, je crois que ce qui a été très déstabilisant dans les années 90, ça a été ce sentiment de chaos, de ne plus du tout maîtriser le sens des évolutions en Russie. Et ce qu'on constate actuellement, c'est l'extrême attachement de la population à la stabilité dans le pays. C'est-à-dire que c'est vraiment l'élément de base pour comprendre aussi ce qui se passe en Russie. Et on l'a bien vu, à mon sens, au moment des manifestations contre les fraudes électorales en 2011-2012. C'est-à-dire qu'on a assisté, lors de ces dernières élections, à des manifestations très importantes dans le centre de Moscou, hein, des centaines de milliers de personnes qui ont manifesté pour réclamer des règles justes, mais toujours sur un mode extrêmement civique, civil, pacifique, et en refusant tout recours à la violence, qui est évidemment le grand mérite, hein, de ces manifestants, mais qui aussi témoignait de cette très grande peur, en fait, de déstabiliser le pays et de remettre en cause la stabilité acquise depuis le début des années 2000. Et d'une certaine façon, je dirais que face à ce qui s'est passé aussi en Ukraine et aux événements sur la place Maïdan, le renversement de Yanukovych, etc., ça a suscité dans la population russe même au-delà des enjeux de puissance, de nationalisme, etc., ça a aussi suscité une très grande crainte que le pays soit à nouveau déstabilisé. Et ça explique en partie cette adhésion, enfin en tout cas ce soutien au discours du pouvoir, au discours de stabilité du pouvoir. Voilà, donc c'était pour insister sur ces aspects.
Est-ce que cet élément important que vous venez de nous indiquer est également présent dans ce qui était évoqué par Aude Merlin tout à l'heure, à savoir les relais d'opinion que peuvent trouver les leaders d'opinion ou les élites russes à l'étranger. C'est-à-dire, est-ce que c'est un élément, pour dire les choses très rapidement, est-ce que c'est un élément de soft power ? Est-ce que ça contribue, on va dire, cet attachement que vous venez de décrire de la société russe à une forme de stabilité, à un type de régime qu'on peut qualifier, pour reprendre les mots de Viktor Orban, d'illibéral ? Est-ce que ça contribue justement à faire de la Russie un contre-modèle ou un modèle un peu attractif possible un peu partout ailleurs dans le monde? Et quand je dis un peu partout ailleurs dans le monde, c'est est-ce que c'est spécifiquement dans l'étranger proche ou est-ce que ça va au-delà, jusqu'au Venezuela, jusqu'à Cuba, jusqu'en Iran? Olga Gidbelova, par exemple.
Moi, j'avoue que je suis un peu sceptique vis-à-vis de cette idée de contre-modèle. C'est vrai que les dirigeants russes cherchent à imposer la Russie comme contre-modèle face à l'Occident. Mais quand on analyse en détail leur positionnement, il s'agit vraiment d'une logique très défensive. Parce qu'on va inventer le concept de la démocratie souveraine au milieu des années 2000 face aux critiques occidentales sur les dérives autoritaires du régime. Après, on invente beaucoup, ou on s'occupe de la promotion de ces valeurs traditionnelles conservatrices, mais aussi face aux critiques sur la situation avec les droits de l'homme en Russie. Donc souvent, il ne s'agit pas d'un véritable modèle, mais d'une force de défense. Donc, est-ce que un modèle qu'on va construire, en se défendant peut être quelque chose de suffisamment intéressant et séducteur pour les autres pays. Moi, je doute fortement.
Donc, est-ce que ça veut dire pour vous, Olga Gilbelova, que vous estimez que finalement, la Russie a peu d'influence dans le monde? Bon, hein, on a déjà répondu non à cette question sur le plan économique. Et là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un débat entre vous trois sur le fait de savoir si la Russie a oui ou non une influence dans le monde, là, sur le plan qu'on pourrait appeler idéologique et politique. Bon, moi, je parle de soft power, donc comme vous le traduisez formidablement bien, capacité de séduction du régime russe ou des élites russes ou vis-à-vis de l'extérieur. Certaines d'entre vous disent plutôt oui et d'autres non. Est-ce que je résume bien?
Oui.
Françoise Dossé.
Tout à fait. Alors moi, je à la différence d'Olga Gilbelova, je dirais que le discours, ce discours de puissance et ce projet politique développé à Moscou a tout de même une influence, notamment ce que je disais tout à l'heure en Europe occidentale, auprès des cercles politiques, je dirais, les plus conservateurs.
Voire autoritaires. Quand vous avez cité Viktor Orban, est sur une dérive autoritaire du régime en Hongrie.
Tout à fait. Et il me semble que c'est extrêmement important à prendre en compte dans un contexte où on voit monter très fortement ces forces autoritaires ou très conservatrices dans nos sociétés occidentales. Hein. Il suffit de regarder les résultats du Front National en France. Voilà, on comprend le poids que prennent ces forces-là actuellement. Et il faut donc prendre en compte aussi le soutien qu'elles obtiennent de Moscou, qui peut même être un soutien financier, hein, puisque le Front National a bénéficié de prêts de banques russes. Voilà, donc je pense qu'au niveau politique, c'est extrêmement important. Au niveau plus large aussi des évolutions dans nos sociétés, je pense qu'il faut aussi le prendre en compte, parce que la Russie déploie une grande activité, notamment au niveau médiatique, pour faire entendre justement sa voix spécifique dans le monde médiatique occidental. Et on sait que la Russie a développé une chaîne de télévision qui s'appelle Russia Today, qui diffuse
en langue anglaise,
qui diffuse aussi en espagnol, et qui va bientôt diffuser en français, si je ne me trompe pas, qui essaye de promouvoir le discours politique de Moscou. La Russie est aussi très présente sur Internet avec un site comme Sputnik, qui relaie les informations là aussi de Moscou en langue française, en langue anglaise, etc. Et puis ce qui est assez fascinant, c'est de voir la Russie en fait essayer de construire de nouvelles institutions, de nouvelles organisations qui sont d'une certaine façon le miroir des institutions occidentales, mais qui sont destinées justement à promouvoir, mettre en œuvre sa politique. Et là, je vais donner un exemple extrêmement concret, hein, c'est la création au milieu des années 2000 à Paris d'un institut russe pour la démocratie et les droits de l'homme qui justement vient promouvoir à Paris la vision russe de la démocratie et des droits de l'homme. Donc il y a cette idée hein, de créer un réel contre-modèle des institutions de contre-propagande, disons,
contre-culture
ouais. Russe à Paris.
Voilà. Est-ce qu'il y a l'équivalent, est-ce que ce que vous évoquez à l'instant, Françoise Dossé, c'est l'équivalent du British Council anglais, de l'Institut Cervantes espagnol, de l'Alliance française, est-ce qu'il y a un réseau comme ça de diffusion de la langue russe, de la culture russe dans le monde? Et si oui, quelle en est la géographie?
Oui, alors je dirais que ces institutions sont nombreuses et diverses. Alors là, je citais cet Institut pour la démocratie, mais qui est relativement petit à Paris. Je citais aussi les médias russes qui sont très présents. On peut aussi parler de la présence religieuse de la Russie à l'étranger. Il y a un projet de construction d'un centre orthodoxe à Paris, pas très loin d'ici, je crois. Donc une présence aussi religieuse et puis une présence linguistique par l'intermédiaire, effectivement, des centres de la culture russe qui se trouvent à l'étranger et qui promeuvent la culture russe. Donc c'est tout un réseau, en fait, d'une présence culturelle, linguistique et aussi éventuellement politique à l'étranger.
Est-ce que c'est comparable? Je m'adresse à vous trois parce que peut-être que ma question n'est peut-être pas du tout pertinente. Est-ce que c'est comparable à ce qui, du temps de l'Union soviétique, était caractérisé comme l'internationalisme soviétique, c'est-à-dire le réseau de partis communistes qui, lui, pour le coup, était vraiment mondial? Parce que ce qui me frappe dans ce que vous nous expliquez depuis le début de cette émission, c'est que j'ai quand même l'impression que c'est vraiment, disons, tous les exemples que vous donnez pour... comme ça, étayer cette influence russe avec vos désaccords, c'est quand même l'Europe et peut-être l'ex-Union soviétique, l'Asie centrale dont vous aviez peu parlé jusqu'à présent. Alors que du temps de l'Union soviétique, si je ne m'abuse, on était vraiment sur un soft power mondial. Hein, rappelez, enfin, tous les régimes communistes, tous les partis communistes du monde entier, d'une manière ou d'une autre, étaient en réseau avec l'Union soviétique.
Alors, moi, si je puis intervenir...
Aude Merlin, de Bruxelles. Même,
voilà. Il faut distinguer certaines choses. Enfin, le soft power, oui, mais franchement, disons, appelons les choses par leur nom. Enfin, la Russie, comme l'Union soviétique, a quand même, dans son jeu, si je puis dire, une capacité et une propension à utiliser le hard power à chaque fois que les autorités soviétiques ou russes considèrent comme nécessaire. C'est-à-dire que ça montre en creux aussi une certaine inefficacité d'un soft power russe, parce que la langue russe avait quand même pas mal reculé, là aussi dans les années 90. Bon, donc les choses se remettent en place. Pour répondre à votre question sur l'internationalisme soviétique et les partis communistes, je pense que ça touche à un point central qui marque une différence pour moi de fond entre la période soviétique et la période post-soviétique, c'est-à-dire que on n'est plus dans la guerre froide, on n'a plus d'idéologie concurrente, on n'est plus dans une compétition bipolaire avec deux modèles idéologiquement ancrés qui sont en rivalité et qui tentent d'influer le plus possible et d'avoir donc un certain nombre de satellites sur la planète, etc. Donc je pense pas qu'on puisse comparer à cette constellation de partis communistes qui avait donc à la fois dans des pays qui avaient des régimes communistes, mais aussi dans des pays démocratiques dans lesquels donc existait un parti communiste parfois extrêmement fort. Je crois qu'aujourd'hui, les choses sont très différentes au sens où il y a plus ce socle idéologique. J'ai un ami écrivain russe, Arkady Babchenko, qui souvent quand il parle de la Russie post-soviétique, il dit c'est une Union soviétique light. Et en fait, en ce sens, c'est sûr que il y a beaucoup de choses qui se sont énormément relâchés. La Russie est rentrée dans la mondialisation. Voilà, il y a toute une, à la fois une culture de masse, une consommation, une inscription dans la mondialisation qui s'est faite, les réseaux sociaux qui traversent les frontières, bien évidemment, une jeunesse russe qui est très ouverte, qui voyage, etc. etc. Et en même temps, les autorités russes tentent de reconstituer un certain maillage, un certain réseau. Mais je dirais ni avec le même effet et ni avec le même socle idéologique. Alors, il en reste pas moins que, effectivement, ce que dit Françoise Dossé est tout à fait réel, et que là, je pense qu'il y a une stratégie russe de déconstruire, détricoter, démanteler, en quelque sorte, une solidarité européenne. Et les autorités russes ne s'y sont pas trompées. D'abord, je pense qu'elles sont particulièrement actives et particulièrement habiles à trouver les talons d'Achille de l'Europe. Et
donc,
effectivement, en finançant, c'est ce qu'a dit Françoise Dossé tout à l'heure, en finançant activement les extrêmes droites européennes, en étant particulièrement active.
Mais au-delà du Front National, parce que j'entends bien, le seul exemple qui a été donné, c'est le Front National.
Oui, parce que là, on parlait de la France, mais on peut parler d'autres partis d'extrême droite en Europe. Non.
On peut parler
des interventions répétées d'Alexandre Douguin en Suède, par exemple, ou en Finlande, avec le Parti des Nouveaux Finlandais, etc. Enfin, on peut voir effectivement que dans certaines enceintes, et on peut le voir aussi au Parlement européen, lorsque Natalia Narochnitskaya, dont parlait tout à l'heure Françoise Dossé à travers cet Institut de la démocratie et des droits de l'homme, intervient au Parlement européen, justement sur la question de la politique extérieure russe et à travers un certain nombre donc, d'initiatives qui sont prises. Les observateurs qui ont été invités à bras ouverts pour aller voir le référendum en Crimée étaient des observateurs, donc toute une constellation d'observateurs venant de partis d'extrême droite et en partie également d'extrême gauche de différents pays d'Europe. Il y avait la Belgique, il y avait la France, il y avait d'autres pays d'Europe.
Donc il y a une... Revenons un instant sur la Crimée, parce que effectivement, vous venez d'indiquer en quoi c'est à la fois une vitrine de l'idéologie poutinienne, et puis, il me semble, en tout cas c'est la question que je voudrais vous poser en écoutant un témoignage, il me semble aussi qu'on voit bien avec l'annexion de la Crimée comment finalement on est passé, disons, d'un soft power communiste à un soft power peut-être plus nationaliste. Tendez l'oreille.
Il est midi devant le Parlement de Simferopol. Irina explose de joie. Oui, la Russie, la Russie! Le Parlement vient de voter le rattachement à la Russie et la tenue d'un référendum le 16 mars pour entériner cette décision. Pour Irina et ses amis, il n'y a aucun doute à avoir sur l'issue du scrutin. Oui, bien sûr, on va voter en majorité pour un rattachement à la Russie. Ça fait depuis la fin de l'URSS qu'on attend ça. Je n'ai rien contre le reste de l'Ukraine. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais c'est évident que nous n'avons rien à voir avec eux. On n'a pas la même culture, la même langue et la même religion. On n'a pas les mêmes aspirations, donc évidemment qu'il faut qu'on se sépare. Devant le Parlement, on se croirait revenu 30 ans en arrière. Les drapeaux de l'URSS sont de sortie. Les chansons à la gloire de Moscou tournent en boucle sur les haut-parleurs. Deniès, un informaticien, dit que c'est son rêve qui se réalise. Jusqu'en 1954, la Crimée faisait partie de l'URSS. Et c'est Khrouchtchev qui a décidé de donner la Crimée à l'Ukraine sans demander l'avis de la population. En Crimée, on a la Russie dans notre sang et dans notre cœur. C'est vrai qu'on est nostalgique de l'URSS. C'était un État fort militairement, économiquement et socialement. Ce n'est pas le cas de l'Ukraine aujourd'hui. Ce soir, deux chaînes de télévision ukrainiennes ont été envahies par les milices pro-russes. À la place, on capte la télévision russe.
Dans ce reportage de Géraldine Allot qui a été diffusé sur France Inter le 6 mars 2014, on entend quelque chose que je résume ainsi. Eux, c'est eux, et nous les Russes, c'est nous. Alors, Olga Gilbelova, comment est-ce qu'on influence le monde avec une telle représentation du monde ?
Moi, je pense qu'il ne faut pas prendre la Crimée comme le baromètre de l'influence russe dans le monde. Donc, le cas de la Crimée est très particulière. Et puis, il faut faire la distinction, je pense, entre la présence des Russes, de russophones, sur les territoires qui ont effectivement appartenu à l'Union soviétique et où les populations se sont retrouvées à l'extérieur de frontières russes suite à la dissolution de l'Union soviétique. Et puis, des pays où, aujourd'hui, la présence des Russes russophones est liée surtout à l'immigration. Et cette immigration a été souvent un choix individuel et... La présence, si vous voulez, je n'oserais même pas utiliser le terme de diaspora, parce qu'il ne s'agit pas des véritables diasporas russes, mais peut-être des communautés. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de cohésion. Il n'y a pas de cohésion interne. Souvent, ce sont des personnes qui sont venues parce qu'ils ont fait un choix individuel, pour des raisons économiques, qui s'intègrent d'ailleurs assez facilement dans leur nouveau pays d'accueil, qui peuvent avoir un attachement très fort à la langue et à la culture russe, mais qui sont capables de faire la distinction entre la culture, l'histoire du pays et le pays tel qu'il existe aujourd'hui, surtout la politique du gouvernement russe actuel, et qui ne seront pas, qui pourront difficilement être instrumentalisés par les dirigeants politiques russes pour promouvoir leurs propres intérêts. Ce qui peut être souvent le cas des communautés russes dans les pays post-soviétiques.
Donc ça veut dire, Olga Gilbelova, ça veut dire que quand sont invoqués les 25 millions de Russes ou de russophones laissés à l'extérieur de la Russie, dont le régime actuel se dit vouloir être le grand protecteur, c'est de la communication politique en fait.
Oui, bien sûr. Il suffit de regarder le programme qui a été lancé en Russie de retour des compatriotes avec des compensations financières proposées aux personnes pour revenir en Russie. Et il y a très peu de personnes qui l'ont utilisé.
Françoise Doucet,
finalement, très peu de monde qui a envie de rentrer.
Oui, je pense que pour comprendre ces débats autour de la question nationale, de l'Empire, etc., il faut revenir justement à la conception de la politique des nationalités soviétiques qu'on voit là, pour le coup, ressurgir. Alors, j'aimerais bien avoir un débat là-dessus avec Aude Merlin, qui est plus spécialiste que moi de cette question. Mais ce qu'on entendait aussi dans ce reportage sur la Crimée, c'est des Criméens qui disent « on est russe avant tout, on est de catégorie ethnique russe, et donc on doit rentrer dans l'Empire russe ». Il y a en Russie ce qui est très frappant, c'est le fait d'assigner aux personnes une nationalité et de la considérer comme
une essence,
voilà, vraiment un essentialisme.
Ça, c'est le grand texte du commissaire bolchevique à la nationalité.
Tout à fait. Et qu'on voit
Staline.
Et qu'on voit ressurgir très fortement, c'est-à-dire que l'idée que la nationalité est une construction ne s'est pas du tout diffusée dans la société. Donc chacun est assigné à son groupe national. C'est parti. Alors c'était très clair là dans le cas de la Crimée. On le voit aussi très nettement au Caucase. Mais là c'est à nouveau Aude Merlin qui pourrait en parler beaucoup mieux que.
Mais alors Aude Merlin, justement, on dit souvent. S'agissant de la Russie actuelle, on dit ou on se demande si elle n'a pas un comportement impérialiste, sachant que, encore une fois, si je comprends bien ce que vous dites en creux depuis le début de l'émission, il ne s'agirait que d'une puissance régionale, parce que pour l'instant, on ne parle quasiment que de l'Europe, on a à peine évoqué la Syrie ou la Méditerranée. Mais donc, du coup, alors, la Russie est-elle, la Russie d'aujourd'hui, c'est un État-nation ou c'est un empire ? Aude Merlin.
Alors. C'est un État qui s'est extrait du format soviétique et qui a souhaité se construire en État-nation, mais qui est, je dirais, lesté par son héritage impérial et qui n'arrive pas à le dépasser et à le transcender. Et du coup, on est dans quelque chose entre les deux, c'est-à-dire ni un État-nation parce que la question de la nation ne parvient pas à aboutir et que cette nation de Russiens, on pourrait dire, de Rassiagne, en fait, n'arrive pas à trouver sa cohésion. Elle est travaillée par des fractures immenses. Enfin, les deux guerres de Tchétchénie récentes en sont la face la plus visible, mais les taux de xénophobie et les gros problèmes de cohésion interne à ce vivre ensemble national russe sont quand même les témoins, pour l'instant en tout cas, d'un échec ou d'un inaboutissement. Et un empire rétréci, un empire, disons, qui reste travaillé par des formes de frustration et de blessures, et donc qui parfois est aussi travaillé par des secousses un peu néo-impériales, en fait, qui viennent comme ça continuer à hanter en quelque sorte les fantômes de la conscience collective, parce qu'il n'y a pas eu de décolonisation des esprits en Russie, il n'y a pas eu de prise de conscience réelle précisément de cette dimension coloniale. Je pense que la question du territoire, de cet empire d'un seul tenant territorial, avec une grande difficulté...
Là, vous parlez de la Fédération de Russie actuelle, quand vous dites cet empire d'un seul tenant, ou est-ce que vous parlez
je parle de l'empire tsariste, de l'Union soviétique, puis de la Russie post-soviétique, c'est-à-dire finalement d'une grande difficulté à parvenir à trouver où s'arrêtait la métropole, où commençaient les colonies. Que ce soit à l'époque de l'Empire tsariste, que ce soit à l'époque soviétique et que ce soit aujourd'hui.
Ça, c'est parce qu'il y a une continuité territoriale.
Voilà, cette continuité territoriale qui rend très difficile finalement l'acceptation de cet héritage et son dépassement. Alors, il y a une autre question, et là, quand même, ça touche au droit international et ça touche au fait que, à l'issue de l'année 1991 et de l'effondrement de l'Union soviétique, en principe, et en termes de reconnaissance par la communauté internationale, ça a été acté, c'est-à-dire 15 nouveaux États indépendants sont nés de l'effondrement de l'Union soviétique, donc pas 14 ni 16, mais bien 15, qui étaient les héritiers, en quelque sorte, des territoires qui étaient dotés du statut de République de l'Union, dont l'Ukraine, etc. Mais on voit aussi que ce soit pour la question ukrainienne, où là l'Ukraine a été reconnue comme État indépendant et souverain, malgré tout, dans les élites russes et parmi de larges segments de la population russe, il y a encore une très très grande confusion et une grande difficulté à accepter l'indépendance ukrainienne, le détachement de cette Ukraine et sa souveraineté. Donc c'est sûr qu'on est encore dans des sursauts impériaux, impérialistes qui n'arrivent pas à se dissoudre dans le droit international et dans une nouvelle optique qui serait celle de construire une Russie donc moderne, démocratique, industrialisée, productive, qui se consoliderait sur le plan économique et sur le plan de ses institutions démocratiques, etc. Sur la question du nationalisme, je voudrais juste ajouter un mot. Quand la question de la Crimée a été évoquée et le reportage. D'ailleurs, c'était l'Ukraine occidentale dans la parole de la dame. Je tiens à le préciser parce que c'est important que les traductions soient absolument parfaites. Mais je pense que pour le cas de la Crimée, quand les personnes interviewées disent qu'elles veulent rejoindre la Russie, etc., bon, déjà, c'est vrai que la Crimée, c'est 58% de personnes qui se définissent comme russes. Ensuite, il y a l'héritage de la flotte, donc de la flotte de Sébastopol, qui était effectivement majoritairement constituée de marins russes. Mais je crois que là, on touche à quelque chose, je dirais, qui va encore au-delà. C'est-à-dire cette confusion entre la puissance soviétique et l'identité russe, et le fait que l'éclatement de l'Union soviétique, l'émergence des conflits, la paupérisation, les oligarques, etc., enfin, tout ce qui a été synonyme de cauchemar pour les gens, n'a pas pu être compensé par une quelconque ressource identitaire au sein de la Russie. Ça a été partiellement compensé dans les territoires périphériques parce que être arménien, être géorgien, être ukrainien, bon, être tchétchène, même si ils l'ont payé très très cher, mais il y avait au moins une définition dans l'altérité par rapport à la Russie. Et pour les Russes, il y a vraiment une détresse identitaire parce que cette confusion entre Union soviétique et Russie, dans la perception des choses, a rendu vraiment désastreuse le fait de perdre. La perte a été absolument, absolument douloureuse. Et je repense à Une discussion, et d'ailleurs dans le cadre d'un reportage pour France Inter avec Zoé Varier qu'on avait fait en 2011, un long dîner donc dans une famille russe que je connaissais depuis 20 ans, mais que je n'avais pas vu depuis 20 ans. Et à un moment donné, l'amie russe qui était interviewée a dit cette phrase qui vient d'un film très connu, Le soleil blanc du désert, et dit « Zadirjavu abidn », j'ai mal à la puissance, hein, mot à mot, enfin j'ai mal. Et il disait qu'il avait mal à sa Russie, parce que la Russie n'avait plus rien à offrir au monde. À l'époque soviétique, il y avait des écrivains, il y avait des artistes, il y avait des sportifs, il y avait l'astronautique, il y avait le développement, il y avait Gagarine, etc., etc. Il disait, la Russie n'est plus qu'un comptoir, elle n'a plus rien à offrir, j'ai mal à ma Russie, j'ai mal à ma puissance. Et donc c'est vrai que cette parole de Russe de Crimée, le fait de se rattacher, puisque voilà, le terme officiel en Russie, c'est la réunification. Bon, on sait bien qu'en droit international, c'est une annexion, ce qui s'est passé, mais vu dans les perceptions subjectives, il y a une dimension de réunification. Et là, il y a quelque chose qui se joue en termes de réparation, et où donc finalement la nostalgie de la puissance soviétique vient entrer en coagulation avec la sensation d'être russe ethniquement. Et je crois que ça, ça doit être rappelé pour essayer de travailler cette question du nationalisme russe et du patriotisme russe.
Est-ce que c'est pas un peu paradoxal quand on sait, si mes informations sont bonnes, que seuls 8 à 10% de la population de la Fédération de Russie dispose d'un passeport ? Ça veut dire que concrètement, il y a plus de 90% des habitants de la Fédération de Russie qui ne sortent jamais du territoire. Françoise Dossé.
Oui, je ne sais pas s'il faut. Je ne sais pas quels sont les chiffres, par exemple, pour la France, pour le nombre de quel est le pourcentage de population de Français qui voyagent à l'étranger. Voilà, le territoire de la Russie. Bah,
quand on voit le nombre de touristes Français qui sont des touristes internationaux chaque année, il est probable que ça soit plus de 10%.
Voilà.
Et puis dans l'UE, il n'y a pas besoin de passeport.
Non, tout à fait. Mais en fait, je voulais revenir sur ce qui vient d'être dit et sur cette difficulté à repenser la Russie dans ses nouvelles frontières, dans son nouvel État, et le corréler en fait aussi à la situation du système politique à l'intérieur du pays, c'est-à-dire l'absence aussi de débats politiques à l'intérieur du pays, liés en fait à la marginalisation complète de tous les partis d'opposition. Ils ne sont plus représentés à la Douma. Et donc, un espace aussi public en Russie qui fait que ces débats n'ont pas lieu et du coup ne peuvent pas être tranchés collectivement, je dirais. Et c'était très net au moment de la crise en Ukraine, puisque pendant plusieurs semaines, le gouvernement a caché des informations fondamentales, notamment sur sa présence militaire en Crimée. Donc, comment avoir un débat sur l'identité, sur la relation à ses voisins, sur le devenir du pays, si on ne peut pas avoir ce débat politique dans un espace public ouvert à l'intérieur dans la société russe.
Qu'est-ce que vous en pensez, Olga, de ce point précis, Olga Gilbelova?
Je dois vous avouer que ce qui me surprend beaucoup actuellement, c'est un grand décalage entre effectivement ce qui a été évoqué par mes collègues, ce discours très monolithique donc qui exalte l'idée du patriotisme, de nationalisme, et les réformes sectorielles qui sont toujours menées en Russie, qui sont très néolibérales dans leur essence. On a vu notamment les réformes dans le secteur de santé, les secteurs d'éducation, et qui sont en fait très en décalage par rapport à tout ce discours patriotique très anti-occidental. Ces transformations, ils s'inscrivent dans une continuité des réformes économiques qui ont commencé au début des années 90. Il s'agit quand même de retraits très importants de l'État, de réduction des financements, notamment dans le cas de secteur de santé, de réduction de nombre de médecins et des hôpitaux, etc. Et à chaque fois, on a vu des phénomènes de mobilisation, de manifestation, de contestation contre certaines politiques. Et je pense que Françoise Dossé peut-être sera mieux placée pour parler de ce phénomène de mobilisation. Mais je trouve qu'en dépit d'absence de ce débat public, effectivement, sur des sujets très importants, il y a quand même une petite contestation, une expérience de mobilisation qui se répand au sein de la société russe.
Alors, il ne reste plus beaucoup de temps, mais j'aimerais quand même vous poser une question qui, me semble-t-il, est un peu à la confluence de plusieurs éléments très importants que vous nous avez donnés les unes et les autres. Est-ce que l'Union Eurasiatique est un projet concret ? Et est-ce que ce que j'évoquais tout à fait au début de l'émission, à savoir un espèce de pivot pour plagier l'expression américaine vers l'Asie et la Chine en particulier, est-ce que c'est une illusion ou est-ce qu'il est vraiment en train de se passer quelque chose de ce point de vue-là en Russie ? Françoise Dossé.
Je pense que la Russie, depuis plusieurs années, insiste beaucoup sur son essence eurasiatique. Aude Merlin a évoqué Douguine, qui est l'un des philosophes qui documente cette idée. La création de l'Organisation de coopération de Shanghai avec la Chine et l'Inde témoigne bien de la volonté de la Russie de rééquilibrer, je dirais, ses relations du côté asiatique, après avoir développé ses liens avec l'Europe après la chute de l'URSS. Dans le même temps, c'est très ambigu parce qu'on sait aussi la très grande inquiétude de la Russie vis-à-vis de la Chine et le sentiment, là aussi, de la Russie d'être un peu en perte de vitesse face à cet immense État et cette société chinoise. Et on sait aussi les inquiétudes nourries à Moscou à propos du devenir de la Sibérie, qui est quand même cet immense, très immense territoire quasiment vide, avec la crainte, en fait, que la Chine aussi... Il y a des mouvements migratoires et donc la peur
mais
en fait
avec l'accord des autorités russes, si j'ai bien compris.
Voilà, mais avec cette crainte sous-jacente tout de même de perdre éventuellement un jour le contrôle de la Sibérie. Donc on voit bien que ces relations du côté asiatique ne sont pas non plus simples.
Olga Gibelova, sur ce point, sachant que là encore une fois, si on s'en tient à la communication politique, on voit bien comment le régime russe depuis quelques années a saisi la balle des BRICS au bon, d'une espèce de contre-alliance avec le Brésil, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud.
Oui, mais le cas de l'Union Eurasienne est un petit peu différent parce qu'on est toujours dans cette logique de ramasser les éclats de l'ancien empire soviétique. Donc c'est toujours les pays post-soviétiques qui participent à cette union. Et d'ailleurs, quand on regarde attentivement les textes ou les institutions qui sont créées, on ne trouve absolument pas les influences justement de Douguine. Et les textes, les objectifs, les institutions sont calqués sur l'Union européenne plutôt. Et c'est vraiment l'inspiration de l'Union européenne est extrêmement visible quand on analyse le fonctionnement de cette organisation.
On en est très très loin pour l'instant. Aujourd'hui c'est même pas une union douanière, c'est une association de libre-échange.
Mais la réalité de cette union, c'est un énième projet qui s'inscrit dans une logique des projets qui ont échoué, des projets de réunification. Pourquoi ? Parce qu'il y a une énorme disparité entre les partenaires. Et il est vrai que la Russie aura du mal à s'envisager justement dans une relation d'égal à égal, de partenariat avec les autres États de l'espace post-soviétique. Donc souvent, tous ces tentatives de coopération sont compromis. Et par ailleurs, d'ailleurs, la crise ukrainienne a également beaucoup contribué à compromettre cette idée de l'Union eurasienne, parce qu'il y a une vraie crispation de la part de dirigeants kazakhs ou biélorusses de s'engager dans une coopération plus profonde. Et d'ailleurs, la Russie elle-même, suite à ses contre-sanctions agroalimentaires, notamment l'embargo alimentaire, a imposé en fait sa propre politique, sa propre vision aux autres partenaires, vidant complètement l'idée d'une union comme une coopération. Donc le projet est en quelque sorte de nouveau un projet mort-né qui ne donnera probablement pas beaucoup d'effets.
Dans l'état actuel des choses, il y a outre la Russie, le Kazakhstan, la Biélorussie et également l'Arménie et le Kyrgyzstan. Alors juste avant de nous quitter, si vous le permettez, je voudrais changer de registre car j'aimerais rendre un bref hommage à Gérard Beltrando, brutalement disparu la semaine passée. Gérard Beltrando, je suis un peu ému, professeur de géographie à Paris Diderot. Il dirigeait l'Institut des écoles doctorales de ce grand consortium universitaire parisien qui s'appelle Sorbonne Paris Cité. C'était un spécialiste mondialement réputé en climatologie et je vous propose qu'on réentende quelques instants sa voix chaleureuse. C'était dans l'émission Planète Terre du 17 septembre 2014. Les deltas vont-ils être submergés ?
La difficulté n'est pas la même dans le delta du Gange, Gange-Brahmapoutre, que dans le Mississippi. Mississippi, il y a des enjeux économiques, il y a aussi les populations, mais dans des proportions moins importantes, alors que, par exemple, au Bangladesh, où les densités de population sont de l'ordre de 1000 habitants au kilomètre carré en plaine, dans le delta, il y a peu de solutions lorsqu'il y a une crise qui arrive, lorsqu'il y a une inondation qui arrive soit par le fleuve, soit par la mer. Et effectivement, là, nous avons très vite des grandes catastrophes.
Au revoir donc Gérard Beltrando, Planète Terre, c'est fini pour aujourd'hui. Aude Merlin, Françoise Dossé, Olga Gilbelova, merci beaucoup pour vos précieux éclairages. Les liens vers vos publications sont bien sûr sur le site web de France Culture à la page Planète Terre. C'était donc La Russie change-t-elle le monde? Luc Jean Reynaud, Édouard Rubinstein, Catherine Madure et la documentation sonore de Radio France nous ont accompagnés en régie et dans la préparation de l'émission que vous pouvez écouter à nouveau en ligne pendant 1000 jours et podcaster pendant un an et puis commenter sur Facebook, Twitter et le site de France Culture. Demain jeudi à 16h dans Culture Science, ne manquez pas La Marche des Sciences d'Aurélie Duneau qui évoquera Darwin sous les feux de l'actualité. Mais pour le moment, comme chaque jour sur France Culture, vous retrouvez Hervé Gardette pour le 5 à 7. Bonjour Hervé.
Bonjour Sylvain. Et à mercredi prochain.
Avec plaisir.